La question que je me pose, est-ce que les enfants n'auraient pas pu rester? Parce que la parole de Dieu, elle est pour eux aussi. Comme elle est pour un grand, elle est pour le petit. Jésus a pu dire, laissez venir les enfants à moi.
Ils vont l'avoir aussi, Jean.
Oui, je sais bien, je sais bien. Mais c'était l'occasion. Voilà. En tout cas, ce matin, ce que je voudrais partager avec vous, c'est bien sûr un passage de l'Évangile. Et c'est le cas de deux hommes. Et vous allez voir que ces deux hommes ont eu une expérience unique pour chacun. Alors, peut-être ça serait intéressant d'avoir Oui, il manque quelque chose. Merci. Ça peut être réduit un peu, non? Parce que ça me paraît bien grand, non?
Si c'est bien.
Ah ouais, bien.
Ça va?
Nos yeux, c'est bien.
Voilà, ça se passe dans une grande ville qui s'appelle Jéricho. Et on sait que dans la Bible, Jéricho est une ville très connue parce qu'il y a eu pas mal de problèmes, de difficultés. Mais voilà que Jésus se rend à Jéricho. Et le contraste frappant, c'est le cas de ce garçon, de cet homme, qui se nomme Bartimée, ce qui veut dire fils de Timée, et celui de Zachée, qui se déroulera lui aussi un peu plus tard. Donc tous deux se trouvaient à Jéricho, mais ils se trouvaient chacun à une extrémité de cette ville. Alors le premier, si vous lisez tout le passage, parce que là il n'y a vraiment que du début, mais ça sera comme ça intéressant, vous prendrez la parole de Dieu, vous la lirez, et vous allez vous rendre compte que le premier est assis au bord d'un chemin, alors que le second va monter sur un arbre. L'un est pauvre et aveugle, l'autre, il est riche, même on pourrait dire, il est très riche. L'un cherchait à voir Jésus pour sa grâce, et l'autre cherchait à voir Jésus. C'est deux positions différentes, mais qui vont se rejoindre. Le premier, Bartimée, a dû se lever pour être sauvé. Le second, il ne s'est pas levé, mais il est descendu de son arbre. Voyez-vous, ce qui est intéressant dans ces deux personnages, c'est qu'on s'aperçoit que Jésus-Christ est capable de sauver les classes sociales, aussi bien les plus élevées que les plus basses. Parce que Dieu ne fait pas de différence. Dieu regarde au cœur de l'homme. Alors ce que nous allons voir peut-être dans un premier temps, je crois que ça sera intéressant, c'est les passages qui sont très connus. Hein. Ceux qui lisent la Bible, ils connaissent ça. Ils ont peut-être vu enfant, hein, enseignement, ils ont peut-être vu ça. La condition de Bartimée. Il est aveugle et mendiant. Sa seule source était envahie par les ténèbres. Et les circonstances de sa vie l'ont rendu indigent. Il faut imaginer se retrouver à cette époque-là, il y a à peu près 2000 ans en arrière. Être aveugle, automatiquement, on devenait mendiant. Parce qu'automatiquement, il y avait la classe sociale qui vous mettait à l'écart. On retrouve ici aussi l'image de l'homme irrégénéré à cause du péché. Pour lui, aucun espoir de voir une situation s'améliorer ou changer. Sa vie n'a été qu'une vie où il n'avait aucune valeur. Rendez-vous compte, au bord d'un chemin, essayant d'attendre quelqu'un qui allait donner peut-être une pièce. Le brouhaha de la foule l'amène à se poser une question. Parce qu'il était là habitué tous les jours. On ne dit pas qui c'est qui l'amène d'abord. Hein. Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Est-ce que c'est un ami personnel? Mais tous les jours, on vient, on le dépose là. Et sûrement qu'en fin de journée, quelqu'un venait le rechercher, pour le ramener dans sa maison. Mais la Bible ne le dit pas. Mais tous les jours, il était là. Ça a duré des mois. Ça a duré des années. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Un brouhaha de voix, des gens qui passent. Et s'il ne voit pas, il entend. Et donc, il pose cette question. Je sais qu'il y a besoin, c'est ça ? C'est ça ou ça ? C'est ça ? Il pose la question, qui passe ? Vous savez que cette question n'est pas anodine. Qui passe ? Parfois, nous, on ne se pose même plus la question, qui passe ? Vous savez que Jésus passe peut-être là, en ce moment, peut-être il passe dans un cœur qui ne sait pas trop où il en est encore. Jésus passe. Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Alors Bartimée ne fait ni une ni deux. Il se lève et il crie. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu que ce cri, on retrouve toute la puissance, la manifestation de l'homme qui crie vers Dieu. Et il crie. Et puis, comme toujours, des gens bien intentionnés, et malheureusement, il y en a encore aujourd'hui, vont lui dire, « Oh, calme, calme. » Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va crier encore plus fort. Jésus, fils de David. Ce fils de David, prenez conscience aussi. Encore là, c'est un juif, hein, on peut comprendre. Mais dire fils de David, ça veut dire qu'il reconnaît déjà que Jésus est celui qui avait été promis et qui viendrait de la lignée de David. Et ce serait lui le sauveur. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire le bruit, mais... Moi, je sais que Jésus s'est arrêté. Il s'est arrêté, il s'arrête encore sûrement ce matin. Et demande qu'on fasse venir cet homme. Est-ce que vous savez que Jésus veut toujours intervenir dans une vie ? Est-ce que vous le savez ça ? Que Jésus encore appelle les hommes à s'approcher, et les femmes aussi bien sûr, à s'approcher de lui. En tout cas, ceux qui sont autour de Bartimée lui disent, il t'appelle. Et il nous est dit que Jésus, ne faisant ni une ni deux, laisse tomber son manteau et va au-devant, conduit sûrement pour aller devant Jésus. Jetant son manteau, ça aussi, c'est très parlant. Et vous verrez dans les évangiles, si vous les lisez, que souvent il s'est produit des événements comme ça. Par exemple, pour la femme samaritaine, il est dit, elle laissa sa cruche. C'était la cruche qui lui permettait d'avoir de l'eau tout le temps. Hein. C'était son moyen. Elle vivait cachée, donc elle venait à l'heure où personne n'était là. Mais elle laisse sa cruche en se disant, je n'ai plus besoin de la cruche, j'ai trouvé l'eau vive à la personne Jésus. Et elle s'en va en ville. Et pour revenir à Bartimée, il se lève d'un bond et il vient vers Jésus. Jésus va lui dire, ça aussi c'est important, que veux-tu que je te fasse ? Moi c'est une interrogation, à l'époque, il y a déjà quelques années, qui m'avait quand même surpris. Jésus pose ce genre de questions à quelqu'un qui l'a vu, qui était mendiant, et qui est aveugle. Que veux-tu que je te fasse ? Et Jésus encore posera la même question aujourd'hui. À quiconque se présentera devant lui, il va demander, que veux-tu que je te fasse ? On pourrait dire, mais Jésus, attends, tu vois pas, il est aveugle. Et Jésus va lui répondre, parce qu'il aura dit, je veux voir, il va répondre, eh bien, vois, et ta foi t'a sauvé. c'est glorieux. C'est une manifestation de la puissance de Dieu qui s'est manifestée à travers un aveugle qui maintenant voit. Par contre, on peut s'interroger encore une autre chose. Pourquoi Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Il a demandé que la vue. Qu'est-ce que c'est qui fait que Jésus qui lui dit « Ta foi t'a sauvé », quelle a été la manifestation qu'on peut retrouver dans le passage? La première chose, et je crois que c'est la plus importante, il a crié à Dieu son besoin et sa misère d'homme. Vous savez, une créature, quand elle prend conscience qu'elle est misérable, et quand je dis misérable, ça ne veut pas dire qu'on a tué, qu'on a fait ci, qu'on a volé. Non. Mais nous sommes misérables. Moi, je sais que personnellement, longtemps, avant que je me convertisse, je croyais être quelqu'un de bien. Jusqu'au moment où le Seigneur a mis le doigt là où ça fait mal. Et qui m'a montré que je n'étais pas si bien que ça. La deuxième chose, il a jeté son fameux manteau de misère pour venir vers Jésus. Ce qui veut dire qu'il a abandonné cette situation d'aveugle et de mendiant. Il abandonne, il laisse son manteau. Et la troisième chose, il a imploré le secours de Dieu, mais aussi son besoin spirituel. La quatrième chose, et qui est peut-être importante, parce que vous savez, on s'aperçoit dans les évangiles que des fois, il y a des gens qui ont été guéris, et puis, ça suffit la guérison, et point final. On ne les a plus vus. Vous avez les 10 lépreux. 10 lépreux, ils sont guéris. Les 10, en même temps, ils sont guéris. Et sur les 10, il n'y en a qu'un qui revient. Et en plus, c'est un Samaritain. Voilà un aperçu de Bartimée. Là, on va voir Zachée. Zachée, lui, on pourrait dire que c'est l'opposé de Bartimée. Sauf si on se fie à notre regard, aux apparences. Sa position sociale, c'est un homme riche. C'est un chef des publicains. Il devait percevoir des taxes et il dirigeait, il était le chef de plusieurs percepteurs. Et ces péagers en plus, ils étaient d'origine juive. Et ils étaient haïs par leurs frères. Pourquoi? Parce qu'ils les considéraient comme des collabos à l'époque des Romains. Et puis on savait qu'en même temps, ils profitaient un petit peu pour augmenter les taxes, et comme ça, ils prenaient une part pour eux. Mais sachez, quand vous lisez le passage, on sent qu'il y a quelque chose derrière qui est un peu différent. Il avait un désir ardent, il voulait voir Jésus. Et vous savez, quand on veut déjà voir Jésus, ça change. Si vous voulez voir, si ce matin quelqu'un veut voir Jésus, premièrement, ici il peut le voir, mais il n'est pas qu'ici, hein. Il peut le voir ailleurs, c'est vrai. Mais il peut le voir déjà ce matin ici. Et vous allez voir comment Zachée va agir, de quelle manière il va manifester de voir, de vouloir voir Jésus. Parce que non seulement il voulait le voir, il voulait le connaître. Et donc, ces simples sentiments n'étaient pas qu'une simple curiosité. Sa curiosité n'était pas malsaine, comme parfois on voit dans notre monde. Non, il avait ce désir profond de chercher qui est Jésus. Le Seigneur, qui regarde au cœur, a dit, vous avez ce passage dans Deutéronome, chapitre 4, verset 29, « Ton Dieu, tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » On sait que pour Bartimée, son obstacle physique, c'était la vue. Il était aveugle. Pour Zachée, il y a deux obstacles. Le premier, c'est la foule. Ah oui, la foule était là. Je ne sais pas si vous avez déjà pris dans une manifestation, quelle qu'elle soit, mais quand vous savez que vous arrivez là, que vous ne savez pas pourquoi il y a cette manifestation et que vous voulez un peu savoir qu'est-ce qui se passe, vous êtes un peu perdu. Et puis la deuxième chose, sa petite taille. Il était un petit bonhomme, un peu comme moi, petit bonhomme. Et quand il y a des grands devant lui, il est un peu gêné. Pour nous aujourd'hui, ce sera aussi notre propre suffisance, hein, comme empêchement, ou notre milieu familial aussi. Le milieu familial, parfois, peut être un préjudice dans la rencontre que nous pourrions faire avec Jésus. Si je vous dis ça, c'est parce que ça se voit. J'ai connu un chrétien d'origine juive. Et pendant des années, je dis bien pendant des années, il a caché à sa famille qu'il était chrétien. Jusqu'au moment où il a compris qu'il fallait qu'il dépasse cette crainte qui était en lui, parce qu'il ne pouvait plus se cacher. Et c'est comme ça qu'un jour, il a quand même dit qu'il était chrétien. Alors, qu'est-ce que c'est qui va déterminer, aussi bien pour Zachée que pour Bartimée? Ça va être leur détermination. Vous savez, quand le moment est favorable, il ne faut pas hésiter. Dieu passe. Là, Jésus passait à Jéricho. Et peut-être, c'était peut-être la dernière fois que Jésus passait à Jéricho. Voilà, deux hommes, par leur détermination, ont choisi Jésus. Sachez, court en avant. Il monte sur un sycomore pour voir Jésus. Je ne sais pas, mais imaginez un peu la situation. Vous êtes là, hein, nous sommes là, et nous voyons ce fameux Zachée courir. On sait qu'il est, hein, petit bonhomme, mais chef des péagers, se met à courir et grimpe sur un arbre. Ça aurait pu paraître un peu sympathique, rigolo. Mais pourtant, la décision que lui prend, elle va être quelque chose qui va le transformer entièrement. Et oui, lorsqu'on veut connaître Jésus, rien ne doit pouvoir nous retenir. Si on veut vraiment rencontrer Jésus, il faut qu'il n'y ait rien qui nous retienne, aucune barrière. Le cantiraton, le truc familial, ou n'importe quoi. Vous savez, les moqueurs, il y en aura toujours. Il y en a eu du temps de Jésus, il y en aura aujourd'hui. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir honte de laisser transparaître quelques émotions pour le Seigneur Jésus. Parce que sinon, si nous avons honte, je ne dis pas que lui aura honte de nous, mais il y aura du mal à ce qu'il y ait une communion avec lui. Ce qui est un peu surprenant, réfléchissons un peu à Jésus qui vient de traverser Jéricho. Derrière lui, il y a Bartimée qui le suit, ce qu'on nous dit la parole, et qui arrive là, sous un arbre. Était-ce le seul arbre? La Bible ne dit rien. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Jésus s'arrête sous cet arbre-là. Ça pourrait paraître étonnant à nos yeux. Et pourtant, on sait que Jésus s'est arrêté sous l'arbre, lève les yeux. Et va lui dire, Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Quelle parole! Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ce qui veut dire que, qui que nous soyons, Jésus nous connaît. Et il nous connaît parfaitement. D'ailleurs, On va s'arrêter quelques instants à cet appel de Jésus, parce que je crois que c'est important. Il va lui dire un premier mot, hâte-toi, hâte-toi. On sent que dans ce hâte-toi, il y a une urgence. L'appel est urgent. On ne peut pas remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. L'appel est là. Hâte-toi. Et le deuxième, c'est de descendre. C'est parfois le plus difficile à faire. Ta propre volonté, ton orgueil empêchent de répondre à cet appel. Vous savez, c'est souvent comme ça. Hein. L'orgueil de la vie, le qu'en dira-t-on ? Oui, mais attends, mes amis, si je leur dis que je suis devenu chrétien, ils vont me regarder d'un drôle de regard. Oui, c'est vrai, sûrement même. Vous savez, les amis qu'on avait, enfin, je ne sais pas pour vous, hein, les amis qu'on avait avant, ils ont disparu. Et on a, par contre, on a des nouveaux amis. Il faut. Et quand Jésus dit « il faut », si vous remettez en disant « je verrai demain » ou « je verrai une autre fois », attention, vous êtes en danger. Je ne veux pas être pessimiste, mais quand Jésus dit « il faut », c'est un impératif et il va dire que je demeure dans ta maison. Oui, mais attendez, moi j'ai besoin de réfléchir. Ou monsieur prenez là, il faut. Non, non, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, il faut. Et on sait que quand c'est aujourd'hui, ce n'est pas à remettre plus tard. Cet aujourd'hui est solennel, la parole est là pour nous le dire, et elle nous dit que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et déjà cette parole a été donnée au peuple juif. Mais cette parole est pour nous aujourd'hui aussi. Rappelez-vous le brigand sur la croix. Jésus va lui dire, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. J'étais à l'hôpital, à Lyon. Je venais de faire un infarctus. Donc j'étais, pour ceux qui connaissent l'hôpital de Bron, hein, c'est particulier pour tous ceux qui font des infarctus sous le cœur. Et là, j'ai eu affaire à un homme. Je ne dirais pas qu'est-ce qu'il était, mais qui me... Je ne sais pas comment on est venu à discuter sur ce passage des brigands sur la croix. Il me disait, mais attendez, aujourd'hui, ça ne veut pas dire aujourd'hui. Alors moi, j'ai dit, écoutez, quand Dieu me dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Et quand Jésus dit à cet homme, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, c'était aujourd'hui que cet homme allait aller au paradis. Si vous me dites le contraire de ça, il y a un problème. Posez-vous la question. J'ai dit à cet homme, comme ça, c'était un grand responsable d'une société que je ne dirai pas le nom, soi-disant chrétienne. J'ai dit, si vous restez dans cette attitude-là, il y a du souci à se faire pour vous. Le Seigneur veut nous donner le meilleur de lui-même. Mais pour avoir le meilleur de lui-même, il faut se donner entièrement à lui. On ne peut pas dire au Seigneur, oui, bon, je te donne une partie de ma vie, mais je garde quand même une petite réserve, un petit endroit pour moi, pour ma petite vie, non, non. Ce que le Seigneur veut, c'est tout notre cœur. Encore une chose étonnante de la part de Zachée, que vous trouverez si vous lisez le passage. C'est un homme qui avait l'habitude de donner des ordres à ceux qui étaient sous son autorité. Et là, il nous est dit que Zachée se hâte de descendre et le reçut avec joie, Jésus. L'empressement de Zachée révèle un cœur désirant trouver la paix et la joie d'une nouvelle vie. Combien sont venus à Jésus tout tristes, car leur cœur n'était pas prêt à laisser les richesses terrestres. Là aussi, dans les évangiles, on trouve l'homme riche qui pose une bonne question. Mais quand Jésus lui dit « Tu vends tout, tu le donnes aux pauvres et tu me suis », il repartit tout triste. Et on sait que la foule a commencé à murmurer quand ils ont vu que Jésus se rendait chez un pécheur, un péagien pécheur. Et Jésus va accorder le pardon à cet homme d'une manière totale en rentrant dans sa maison. Voilà deux hommes, voilà deux vies qui étaient totalement différentes, avec misère pour l'un, richesse, abondance pour l'autre. Et pourtant, tous les deux ont eu besoin de venir à Jésus. Et la parole ne dit pas, ne dit rien quand il est possible que Bartimée soit rentré dans cette maison aussi. Ça, la Bible ne le dit pas. Mais on peut l'imaginer. Bartimée suivait Jésus maintenant. Il le suivait dans le chemin. Et vous savez que des fois, on n'est pas conscient des paroles qui sont dans la Bible. Mais quand il est dit qu'un tel le suit Jésus dans le chemin, ça va plus loin que un chemin. Ça veut dire... ça saute partout. J'espère que je ne vais pas exploser. Suivre Jésus dans le chemin, c'est de dire, suivre Jésus dans le chemin qu'il nous a ouvert. Mais c'est un chemin qui va nous amener un jour dans sa présence. C'est le chemin de la vie. C'est le chemin du royaume de Dieu. C'est là, quand Jésus dit « Je m'en vais, mais je reviendrai vous chercher », que Jésus va venir nous chercher et nous amener. Alors, ce matin, on pourrait dire « Mais est-ce que j'ai envie d'aller dans ce chemin ?» Alors, c'est la question qui est posée à chacun de répondre. Est-ce que Jésus va trouver quelqu'un ce matin qui va dire « Oui, moi j'ai envie de suivre Bartimée, j'ai envie de suivre Zachée, j'ai envie de suivre tous ceux qui sont passés après lui parce que je reconnais que tu es le seul chemin, la vérité et la vie. » Et la Bible précise bien, et c'est Jésus qui le dit, et nul ne va au Père que par moi, par Jésus. On va réfléchir un peu, on va prier, non? Je crois que ça serait bien, hein? Parce que ce matin, ce que Dieu veut, je vais m'éloigner, je ne sais pas si c'est celui-là ou c'est celui-là qui fait tant de bruit. Ce que le Seigneur veut ce matin, oh, c'est celui-là. Il ne veut pas que je parle, mais on parle. C'est le responsable sur la main.
Plus près, on n'entend pas assez.
Ah oui, ben oui, mais en plus il fait du bruit lui. Alors, moi je ne parle pas fort et en parle lui, il me fait le plus derrière. Non, ce que Jésus veut ce matin, c'est que chacun puisse venir à lui tel qu'il est. Jésus vous aime. Alors, je ne sais pas, parce que moi je ne vous connais pas. Mais Jésus vous connaît. Il sait. Jésus, il sait votre besoin. Il sait votre recherche. Et Dieu, Jésus vous appelle ce matin. Voilà. Il n'y a que vous qui pouvez répondre. Personne ne peut répondre pour vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Terminons par la prière. Merci Seigneur parce que ta parole est là pour nous rappeler que tu es celui qui ne change pas, tu es celui qui passe toujours et qui nous appelle, qui nous interpelle. Et ce matin encore Seigneur, ce que tu veux, c'est que à travers ta parole, tu aies parlé à un cœur et que ce cœur Seigneur puisse invoquer ton nom puisse t'appeler à son secours, puisse te demander de venir dans sa vie, de recevoir le pardon des péchés et de cette vie nouvelle. Merci Seigneur parce que tu es celui encore qui répond à celui qui t'appelle. Que ton nom soit béni et glorifié Seigneur. Amen.
Alors cette semaine, c'est encore les vacances. Je vous partage le programme de la semaine qui est donc très léger, puisqu'il n'y a pas d'activité pendant la semaine. Par contre, samedi, une activité qui n'est pas mentionnée, puisqu'elle ne fait pas partie des activités de l'Église, c'est donc le mariage ou le remariage de David Pantel. Vous savez, le pianiste qui accompagne la chorale à certains moments. David se remarie donc samedi à 14h à Mérin, à la ferme de la Golette. Si vous ne savez pas où c'est, vous pouvez chercher sur Internet, vous pouvez me demander aussi. C'est donc rue de la Campagne, Charnot au numéro 9, donc samedi à 14h. Je trouvais sympa si quelques-uns de l'Église pouvaient les entourer à cette occasion. Donc je vous rappelle que le dimanche 27 août, donc le dernier dimanche du mois d'août, il n'y aura pas de culte ici puisqu'on va se retrouver à la montagne, au chalet d'alpage de la Lècherolle. Suite au club d'été, il y a, comme à chaque fois qu'il y a des rencontres, il y a des objets trouvés qui ont été retrouvés à la fin du club d'été et qui sont donc dans la petite cuisine, juste derrière. Donc voilà. N'hésitez pas à les faire un tour, c'est toujours intéressant de voir ce qu'on retrouve à la fin d'une semaine. Continuons de penser à ceux qui souffrent, à John, Guylaine et Jacques aussi. Continuons de penser aussi à Brian et Hélène. Hélène est toujours très fatiguée. Ils saluent chacun de nous, ils sont en pensée avec nous. Ils devaient retourner donc à Nice en début août. C'est toujours pas fait. J'imagine à cause de la santé fragile de Hélène. Donc voilà, continuons de penser à eux, de prier pour eux, que ce déménagement puisse se passer au mieux, que Dieu les accompagne, que Dieu les précède aussi. Annelise est toujours à la clinique Bois-Bougie à Nyon. Annelise va mieux. Elle a eu 2 traitements au laser qui ont amélioré ses plaies qui vont nettement mieux. Il est recommandé de lui téléphoner avant de la visiter, donc elle est visitable sans souci, elle apprécie les visites. Donc n'hésitez pas de l'appeler, j'ai mis un petit message sur le site, sinon vous pouvez me demander son téléphone. Elle est au 2e étage, la chambre numéro 220. Elle dit que c'est un endroit magnifique, donc voilà, si vous voulez aller lui rendre visite, ça lui fera plaisir et ça vous fera certainement aussi beaucoup de bien. Sinon, s'il n'y a pas d'autres annonces, je vous invite à vous lever. Je vous lis encore 2 versets dans Colossiens 2, les versets 9 et 10. En effet, c'est en Christ qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Bon dimanche, bonne semaine.